Hello, Mortimer! Ah, mon cher Black. Désolé d'interrompre vos vacances, Mortimer, mais ça va mal.
Nesta!
Oui, monsieur?
Faites mes bagages.
Bien, monsieur.
Mais capitaine, vous n'allez pas...
Inutile d'insister, je lève l'ancre.
Corne debout! La barre à bâbord, toute! Arrêt à virer!
Alix, laisse ton bouclier, viens!
Vite! Les gladiateurs gagnent sur nous!
Captivant, captivant.
Allô?
Commandant Moran?
Oui?
Mon lieutenant, vous me laissez faire équipe avec Tanguy, s'il vous plaît?
Accordez la verdure,
ah,
vous
merci.
Parlez avec Tanguy.
Captivant, captivant. Le magazine de la bande dessinée.
Voici Raskar Kapak, celui qui déchaîne le feu du ciel.
Captivant, captivant.
Premier, Michel Vaillant, sur Vaillante numéro 10.
Captivant, une émission de Marc Dacier.
Je bois le restant de ma gourde de potion magique. Et on y va.
Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, une émission spéciale réalisée par Christian qui sera entièrement consacrée à l'un des personnages les plus populaires de l'histoire de la BD, Astérix. Un petit Gaulois dont la France entière a fait son héros dès sa création en 1959 dans les pages du journal Pilote. Une incroyable histoire qui est aussi celle de ses auteurs, René Goscinny, un Français russo-polonais, et Albert Uderzo, un Français né italien. Le premier album de la série fut tiré à 20 000 exemplaires, les 5e et 6e atteignirent le million, et ce en moins de 5 ans, devenant un véritable phénomène de société. Le dernier a été imprimé à 3 millions d'exemplaires. En hommage à sa popularité, le premier satellite français porta le nom d'Astérix et fut lancé le 26 novembre 1965.
Alors courage, assurance Astérix, nous sommes là, voyons, allons.
Voici notre dernier concurrent, le barde Assurance Tourix, qui va nous chanter son grand succès, Menhir Montant.
Menhir Montant, mais oui, madame.
Obélix, 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 enlève tes doigts de tes oreilles, voyons.
Il a fini de chanter.
Oui, mais la danse commence. Assurance Tourix a quitté la scène. Il faut empêcher le public de le rejoindre. Oh, c'est Obélix.
Mais qui c'est ces deux-là?
Vous occupez pas, il va plus la scène. Rentrez chez vous. Le spectacle est terminé. Vous allez rater le dernier chat. Allons.
Ah oui. Eh ben, essayez de me faire évacuer la scène, tiens.
On se frappe les trois coups pour commencer, hein, Astérix.
Si tu veux, Obélix.
Sur la Gaule et les Gaulois. Au temps lointain où les Romains avaient envahi la Gaule, il ne resta qu'un seul village qui ne connut pas l'esclavage.
Regardez les voilà,
nos ancêtres les Gaulois. Hey, yo, 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 yo.
préfectoire. Je vous écoute.
Oh, Bélix d'une simple gifle lançait les Romains dans les airs. Qui retombait 20 mètres derrière, la tête enfoncée dans la terre. Boum.
Ah, très marrant. Mademoiselle Hermagos, même pas française. Est-ce qu'on la pays qui est le vôtre, il existe un héros comme Astérix.
Vanderlitz, Varmelit, Obélix de Brugge-Gand. Mais Blondeland, mais Vanderland, Astérix de Brugge-Gand.
Mais qu'est-ce qu'elle raconte, c'est lamentable. Vous serez livré à la tribu belge et ligoté sur un tonneau de guerre. Vous serez roulé dans les frites.
Ce soir, dans Captivant, nous vous proposons l'histoire d'Astérix, le plus populaire des héros de la BD européenne. Une histoire qui commence par celle de ses créateurs, le scénariste René Goscinny et le dessinateur Albert Uderzo. Écrivain surdoué, découvreur de talent et créateur-rédacteur en chef de Pilote à partir de 1959, René Goscinny dessine à ses débuts. En effet, alors qu'il vit depuis l'âge de 2 ans en Argentine, il essaie vers 1943 de démarrer une carrière de dessinateur sans grand succès. En 1945, avec des connaissances en anglais très restreintes, il débarque aux États-Unis où il travaille avec l'équipe des fondateurs de MAD. De retour en Europe, il publie ses premières histoires dans Libre Junior, supplément hebdomadaire de la Libre Belgique, en dessinant notamment les aventures policières de Dick Dix. Détestant dessiner les voitures, les protagonistes se poursuivent dans les rues de New York à pied. Sollicité pour la réalisation de scénarios, il abandonne peu à peu le dessin et fournit vers 1952 quelques récits à, déjà, Uderzo, Jean Pistolet et Luc Junior, toujours pour ce supplément au quotidien belge. En 1952, il réalise quelques histoires de l'oncle Paul dessinées par Eddie Papp et écrit à partir de 1955 les aventures de Lucky Luke que dessinait Maurice depuis 1947. Tout en continuant Lucky Luke, il collabore à Tintin, où il crée Oompapa pour Uderzo en 1958.
Oompapa subira demain série d'épreuves. S'il en sort vainqueur, la vie de double scalp lui appartiendra.
C'est pas juste.
Gros bison a parlé, le conseil est terminé.
Dites-moi, cher monsieur Oompapa, les épreuves sont-elles difficiles?
Épreuve est abominable, oui. Ah. Mais moi, plus brave des braves de la tribu, moi, grand guerrier, moi, tout réussir. Enfin, peut-être. Allez, dans mon tipi au dodo. Demain, faire jour.
À la suite de la rédaction d'une charte des droits des dessinateurs qui leur vaut l'inscription sur une liste noire chez leurs éditeurs, René Goscinny, Albert Uderzo et Jean-Michel Charlier fondent deux petites sociétés, Eddy France pour l'édition et Eddy Press pour la publicité. En 1958, contactés par le publiciste François Clotot, ils conçoivent ce qui deviendra Pilote en 1959. Rédacteur en chef dès le début de la revue, Goscinny démarre au numéro 1 Le Petit Nicolas avec Sampé jusqu'en 1965 et ce qui deviendra un phénomène de société, Astérix, dessiné par Uderzo. En plus de l'animation du journal, il crée Potachologie avec Cabu, qui annonce plus tard le Grand Duduche. En 1965, naît la collaboration avec Gottlieb, qui donne la rubrique loufoque des Dingo Dossiers. Parallèlement à ses activités pilotomaniaques, Goscinny écrit pour Tabary les aventures d'Isno Good dans Record en 1962, puis dans Pilote à partir de 1968. René Goscinny est également à l'origine des pages d'actualité de Pilote qu'il instaure après mai 68 et qui donneront lieu aux fameuses réunions du lundi de la rédaction du journal. Outre ses activités déjà nombreuses et accaparantes, il anime en compagnie de GB, Fred et Gottlieb l'émission Le Feu de camp du dimanche matin sur Europe 1 en 1969. Après la révolution entre guillemets de 1972 à Pilote, où d'abord Bretécher, Gottlieb et Mandrika partent fonder l'Écho des Savanes, suivi d'une hémorragie de dessinateurs, Goscinny abandonne son poste de rédacteur en chef à Guy Vidal pour rester directeur du journal jusqu'en 1974. Certes, René Goscinny a créé Astérix, mais plus encore que cette série vedette, on lui doit l'élaboration de la nouvelle bande dessinée. Grâce à son énergie et son flair, il a permis à de jeunes dessinateurs vedettes d'exprimer leur talent. Sous son impulsion, Pilote est devenu le laboratoire laboratoire de création le plus riche des années 60. René Goscinny disparaît en 1977, victime d'un arrêt cardiaque lors d'un test d'effort chez son cardiologue. Ce soir, un numéro spécial de Captivant entièrement consacré à Astérix, avec maintenant une interview de Pierre Tchernia. Ce grand homme de télévision a très bien connu René Goscinny, qui était son ami et avec qui il a travaillé pour les adaptations cinématographiques d'Astérix et Lucky Luke, pour des émissions télévisées et pour le film Le Viager. En novembre 1997, alors que venait de paraître l'ouvrage René Goscinny, profession scénariste, de Guy Vidal et Anne Goscinny chez Dargo, dont il avait écrit la préface, Pierre Tchernia racontait sur RV sa découverte du travail de Goscinny et Uderzo dans Pilote en 1961.
Oui, ça doit être un peu avant 61, parce que je crois que Pilote a commencé en 59. Donc ça doit être dans les vacances de l'année 60 où Philippe Barberousse, dessinateur bien connu, me parle de Pilote. Il me dit, mais tu lis pas Pilote? Je lui dis non. À l'époque, j'avais des enfants qui n'étaient pas encore en âge de lire des journaux de bande dessinée, et moi, j'avais plus l'âge d'en lire. Alors j'ai été acheter Pilote, et puis j'ai été très frappé. Et puis quand les Astérix sont parus en album, c'est-à-dire un an après, je pense, je les ai achetés et j'ai adoré ça. Et puis je me disais, je voudrais bien les rencontrer un jour. Mais moi, j'étais pris dans mes affaires de télévision, de particulier. Et un jour, j'ai eu la chance de rencontrer René, parce que la direction de la télévision avait sollicité... quelques auteurs, dessinateurs, auteurs radiophoniques, gens de, on disait pas encore café-théâtre à l'époque, mais de cabaret, pour essayer de faire des émissions comiques. Et Gus, le dessinateur, que je connaissais bien, amène un ami et dit « Oh, j'ai amené un ami, c'est René Goscinny. » Ah ! Et je découvre René, et lui me connaissait parce qu'il me suivait à la télévision, et on s'est vite, très vite aperçu qu'on avait beaucoup de goûts communs, et on est devenus très rapidement des amis. En 65, on me demande de faire pour les fêtes de fin d'année une émission légère en hommage à l'invention du cinéma. Et il me vient une idée, j'en parle à Goscinny, c'était de prendre L'arroseur arrosé, le premier gag cinématographique du cinéma français, et de le traiter de façon différente. Alors c'est Roger Pierre et Jean-Marc Thibault qui ont joué les personnages, et c'est devenu un film moldovalaque sous-titré, c'est devenu un film japonais, c'est devenu une comédie musicale, un film d'Hitchcock, enfin des parodies. Et ça a eu la Rose d'Or du Festival de Montreux et le Prix de la Presse. Alors j'étais très fier, et puis la direction de la télévision demande à Goscinny d'écrire pour la télévision... Un nouvel Astérix qui serait interprété par Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, qui avait eu beaucoup de succès. Alors là, René a dit non, il n'est pas question de faire jouer Astérix par des comédiens. Et puis, je ne vais pas faire, un Astérix dont je ne pourrais pas surveiller la façon dont il évolue. Non. Alors, il a donc une bonne idée. C'est de faire les aventures de deux Romains en Gaule, deux bidas qui font de l'occupation, que jouent Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. Alors ils ont toute une aventure à laquelle sont mêlés des gens comme Jean-Yann, en effet Goscinny et Uderzo qui font de la figuration. Et ça a été une autre aventure heureuse que nous avons faite ensemble. C'est moi qui l'ai réalisé.
Mais c'est un casque, ça.
Oh, mon vieux. Les gens, quand ils pique-niquent dans la forêt, ils laissent traîner toutes sortes de choses.
C'est un casque romain. Et regarde par terre. Des traces de pas. On s'est battu. Et ce casque est un casque de centurion romain.
Tu crois ?
Les Romains ont enlevé Assurance Tourix.
Ils sont fous, ces Romains.
Tiens, regarde l'immatriculation dans le casque. Deuxième corps, première centurie, camp de Babaorum. Le camp de Babaorum. C'est là que nous trouverons notre barde.
Tchic, 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 tchic. C'est plein de Romains dans ce camp-là.
Je bois le restant de ma gourde de potion magique. Et on y va.
Faut rigoler, avant que le ciel nous tombe sur la tête. Faut rigoler, pour empêcher le ciel de tomber. Nos ancêtres, eux, les Gaulois, cheveux blonds et tête de bois, longue moustache et gros dada, ne connaissaient que ce refrain-là.
Faut rigoler, avant que le ciel.
C'était des primitifs, ils n'avaient rien d'autre pour se distraire. Nous avons la danse des canards. La pile à Alésia, les barbares étaient là, mais tant pis pour dire les Gaulois.
Faut rigoler, avant que le ciel nous.
Ils pouvaient toujours crever les barbares, ils s'en foutaient complètement les Gaulois.
Faut rigoler, pour empêcher le ciel de tomber.
Allons-y, nos ancêtres, les Gaulois. Le tabac, et c'est grâce à ce truc-là qu'il se vendait la pipe à tout de bois.
Avant que le ciel.
Dites-moi à propos de tabac, ils nous ont laissé des Gauloises bien roulées. Allons-y, nos ancêtres, les Gaulois. Papa, et c'est pour ça qu'on est là. Et...
qu'on a fait le tcha-tcha gaulois.
Dites-moi, si nous parlons sérieusement là, hein, cette chanson, hein, entre nous, pour une couillonnade, c'est une couillonnade.
Captivant.
Oh, ils sont fous ces Romains.
Marc Dacier.
Si aujourd'hui Uderzo n'est plus pour le grand public que le créateur d'Astérix, l'un des plus célèbres personnages de la bande dessinée, il ne faut pas oublier qu'il fut également un grand dessinateur réaliste, avec en particulier la réalisation de Tanguy et la Verdure. Entré à 13 ans et demi pendant ses vacances scolaires dans la rédaction de Junior comme homme à tout faire, il travaille l'année suivante à la recherche photo et à la mise en page. Revenu en Bretagne avec son père pendant 2 ans, il passe un an en 1944 dans un studio de dessin animé, puis commence à réaliser ses premières bandes en 1945. Pendant encore 5 ans, il dessine successivement Harris Buck, Prince Rolin et Bélois dans Hockey. En 1950, il est reporter dessinateur à France Dimanche, illustrant des faits divers, et dessine Le crime ne paie pas dans France Soir, ainsi que Capitaine Marvel Junior dans Bravo. L'année suivante sera décisive, puisqu'Uderzo fait la connaissance de Goscinny, de retour des États-Unis, avec qui il commence à collaborer dans La Libre Junior, supplément dominical du quotidien La Libre Belgique, pour les aventures de Jehan Pistolet, 1952, et de Luc Junior, 1954. Bientôt, le tandem Goscinny-Uderzo élabore la première version d'Oumpapa, reprise légèrement modifiée dans Tintin de 1958 à 1963. Mais le grand bond en avant qui lui permet d'accéder à la notoriété de manière fulgurante date de 1959, avec la parution du numéro 1 de Pilote, dans lequel il commence Astérix et Michel Tanguy.
Alors Tanguy et la Verdure, rien de nouveau ?
Rien, mon colonel.
Eh oui, à croire que la fusée a joué les Spoutniks et qu'elle s'est payée une petite balade dans le ciel plutôt que dans l'anti-attelage.
Et Darnier et Saint-Hélier ?
Ben, ils patrouillent actuellement. Eux non plus, rien. Rien jusqu'à présent. J'espère surtout que tout se passe bien entre ces deux lascars qui ne me paraissent pas tellement fraternisés. Je donnerais volontiers à moi de seul de pouvoir écouter ce qu'ils peuvent se dire en vol.
Devant l'incroyable succès d'Astérix, Uderzo abandonne en 1967 sa seconde série à JG. Les aventures du terrible Gaulois paraissent dans Pilote jusqu'en 1973, puis dans la grande presse, Le Monde, Sud-Ouest, Le Nouvel Observateur. À la mort de Goscinny, Uderzo poursuit seul les aventures de son héros et fonde les éditions Albert René. Dessinateur remarquable, son style très personnel tient tout à la fois de l'école réaliste américaine, dont il conserve l'efficacité, et des traditions franco-belges du dessin d'humour. Son talent conjugué à celui de Goscinny permettra au début des années 60, à travers le succès d'Astérix, à la bande dessinée d'être reconnue par un public adulte qu'elle n'avait pas jusqu'alors rencontré.
Comme l'autre Malikra, j'allais faire un tour en cabine, j'allais faire un tour dans le petit bois, tâter l'âme sœur qu'on devine. Dans la foule romaine, il y a foule à Rome. Dans la foule romaine, il y a foule. Penser à un est fou. Dans le foule, il y a foule. Tes baisers me mirent, tes gestes de reine, tes orgasmes doux.
De Marc Dacier.
Nous vous proposons ce soir un numéro spécial de Captivant entièrement consacré aux héros de BD préférés des Français et même des Européens, Astérix. En 1995, son créateur Albert Uderzo a été notre invité à ce micro. Il avait évoqué ses débuts et notamment la série d'aventures moyenâgeuses Harisbuck qu'il dessinait dans les années 40. Harisbuck était un grand gaillard musclé qui avait pour compagnon un personnage nommé Cascagnac qu'on a pu considérer comme la préfiguration d'Astérix.
Enfin, disons que beaucoup d'exégètes ont voulu trouver absolument une ressemblance, alors que ça n'en avait pas une, puisque quand j'ai créé Astérix, je ne me souvenais plus du tout de ce personnage, hein, plus du tout. Non, c'est comme ça, c'est une coïncidence, parce que effectivement, c'était un petit personnage qui avait des moustaches avec un casque qui portait des ailes, effectivement. Mais encore une fois, c'était pas du tout la même époque. L'histoire que vous venez de citer, Harisbuck, c'était une histoire mi-moyenâgeuse, mi-celtique. Il faut dire que d'ailleurs, ce qui m'inspirait là-dedans, c'était surtout la grande époque qui était dessinée par un grand dessinateur américain et qui dessinait Prince Vaillant. Prince Vaillant se situait comme ça dans cette époque celtique, qui était donc à la fois moyenâgeuse et où on voyait justement des grands gaillards encore assez barbares avec des casques ailés. Donc j'ai voulu m'inspirer d'un petit peu de cette époque-là. Mais bon, c'est tout simplement amusant qu'effectivement il ait pu un petit rapport. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'Astérix, il est né d'abord grand et costaud. Et c'est Goscinny qui m'a dit non. On avait l'idée de faire un anti-héros pour ne pas aller dans le sens du vent de l'époque. Et il m'a dit il faut faire un petit bonhomme. Mais c'est comme ça que j'ai reconstruit le personnage en étant petit, gros nez, malin, mais intelligent, quoi. Intelligent et malin surtout.
Allez, on ne passe pas.
Mais si on passe.
Oh, ils sont fous ces Romains. Je frappe avant d'entrer, hein, Astérix.
Mais bien sûr, Obélix pour poli.
Arrêtez, je vous ordonne d'arrêter pour la dernière.
Halte.
Mais laisse-le donc, pourquoi le relève-tu?
C'est l'Arlève de la gare.
Ah non, Obélix, hein. Nous ne sommes pas ici pour jouer, mais pour retrouver Assurance Tourix. Il est peut-être en danger. Allez, viens, il faut en finir, et vite.
Bon, très bien.
Obélix est l'opposé d'Astérix. Est-ce pour créer un équilibre avec Astérix que ce personnage est né, ou bien est-ce parce que vous vouliez vraiment dessiner ce genre de grand bonhomme costaud que vous affectionniez ?
Oui, ben, si vous voulez, c'est un petit peu le travail en osmose qu'il y avait entre Goscinny et moi. À partir du moment où Goscinny m'a dit « Non, je ne veux pas d'un grand costaud, moi je veux un petit malingre. » Je suis têtu paraît-il, enfin c'est ce qu'on dit autour de moi, et j'ai dessiné quand même un personnage assez grand et costaud qui est devenu Obélix, mais qui n'était pas du tout comme ça. C'est un personnage qui avait des épaules plutôt carrées, qui portait une hache d'ailleurs, il y avait un côté belliqueux. Et bon, comment dire, Goscinny l'a accepté, je ne dirais pas contre cœur, mais enfin bon, il m'a laissé faire. Et puis il s'est rendu compte que ça pouvait être très utile d'avoir, disons, un personnage à côté d'Astérix le héros qui puisse en quelque sorte répondre un petit peu, parce qu'un personnage seul se parle à lui-même et c'est toujours un petit peu embêtant. Alors donc il y avait en quelque sorte un faire-valoir, et c'est comme ça qu'est né Obélix, disons un petit peu accidentellement, et puis on s'est rendu compte qu'il était très nécessaire qu'il soit là.
Quel est votre personnage préféré dans Astérix?
Bah, à cause de ça, c'est peut-être Obélix justement. Non, c'est vrai qu'Obélix est plus facile à manier et à traiter qu'Astérix, qui lui est tout de même un personnage qui doit avoir toujours un un peu le sens des réalités, c'est-à-dire qu'il doit mener à bien une aventure. On ne peut pas laisser ça entre les mains d'Obélix, qui est pas tôt et qui, lui, est un personnage d'instinct qui bouge en fonction de ses envies, c'est-à-dire à savoir d'abord manger du sanglier et ensuite taper sur la tête des Romains. Ça va pas plus loin.
Il irait me décrocher la lune un beau jour si j'en voudrais une. Comme lui, y'en a pas plein, c'est ce qu'on appelle un vrai copain. C'est cool. Il est fidèle comme un vieux chien, du cœur il en a plein les mains. Il donne. Mais y'a des jours où l'amitié, comme une enclume, ça peut peser des tonnes. Il me pomplait. Mon copain patapouf, il est lourd, il embine, il est mou. En plus, il comprend rien, mais bon. C'est mon copain. Quand il commence à être sérieux et qu'il me regarde avec ses yeux de veau,
En créant Astérix, René Goscinny et Albert Uderzo ont développé bien avant la lettre le concept d'exception culturelle. Dans leur petit village entouré de camps retranchés romains, Astérix et ses compagnons résistent à l'envahisseur. Grâce à la potion magique du druide Panoramix qui leur donne une force surhumaine, les rusés gaulois malmènent et ridiculisent les romains plus bêtes que méchants. Hableurs, bagarreurs d'une mauvaise foi absolue, les Gaulois nous ressemblent. Leurs défauts comme leurs qualités nous les rendent sympathiques, d'autant que chaque histoire se termine dans la joie autour d'un somptueux festin de sangliers arrosés de cervoise. Bonsoir à tous et à la semaine prochaine.